C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Rémi.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le mardi 4 octobre 2022 et aujourd'hui, cap sur nos prairies, nos champs et nos jardins pour parler d'insectes essentiels à la biodiversité, les pollinisateurs.
Est-ce que l'on connaît vraiment les abeilles qui viennent visiter nos fleurs et nos jardins? Est-ce que l'on sait vraiment ce qu'est la pollinisation? Est-ce qu'il existe d'autres pollinisateurs que les abeilles?
Pour parler de ce sujet et répondre à toutes ces questions, nous allons recevoir Jean-François Audoux, ingénieur, expérimentateur abeilles et environnement agricole, chercheur au laboratoire EVA pour éco-physiologie végétale, agronomie et nutrition.
Mais avant, c'est l'heure du flash avec les infos sciences de la semaine. Attention tout le monde, on a découvert un trou noir proche de la Terre. Et en plus d'être très proche, il est très sombre, de quoi faire vraiment peur. Pas de raison de s'inquiéter pour autant, il est à 1500 années-lumière. À notre échelle, c'est énorme, mais à l'échelle de notre galaxie, la Voie lactée, c'est relativement proche. C'est trois fois plus proche que le dernier record. Ce qui change par contre, c'est que ce trou noir est vraiment très sombre et qu'il n'émet aucune lumière. Normalement, on détecte un trou noir en observant les nuages de gaz et les étoiles qu'il dévore avec des rayons X, mais pour celui-ci, aucune lumière. On l'a détecté grâce à une étoile qui lui tourne autour. Les astrophysiciens s'étaient posé la question des mouvements étranges de cette étoile détectée par le télescope spatial Gaia. La seule explication à ces mouvements est la présence d'un trou noir beaucoup plus dense qui attire l'étoile vers lui. Pour certains chercheurs, il s'agirait même de deux trous noirs très proches qui tourneraient l'un autour de l'autre. Cette découverte est importante pour les chercheurs parce qu'il pourrait en fait exister beaucoup plus de trous noirs sombres comme celui-là que de trous noirs dits voraces comme celui au centre de notre galaxie. Une découverte qui nous en apprend plus sur l'univers et son côté obscur.
Direction la Suède maintenant avec la remise du très prestigieux prix Nobel de médecine et de physiologie qui a été décerné hier aux Suédoises Svante Paabo. Ce dernier a été récompensé pour le séquençage du génome de l'homme de Néandertal et pour son rôle dans l'émergence de la paléogénomique. La paléogénomique, c'est tout simplement la science qui étudie des ADN anciens dans le but de comprendre les évolutions humaines. Tout cela lui avait permis de découvrir qu'un transfert de gènes avait eu lieu entre l'homme de Néandertal, aujourd'hui disparu, et l'Homo sapiens. Selon le jury, en révélant les différences génétiques qui distinguent tous les humains vivants des hominidés disparus, ces découvertes ont donné la base à l'exploration de ce qui fait de nous, humains, des êtres aussi uniques. Ces derniers ajoutent que les différences génétiques entre Homo sapiens et nos plus proches parents aujourd'hui éteints étaient inconnues jusqu'à ce qu'elles soient identifiées grâce aux travaux de Paabo. En tout cas, ce prix est également symbolique puisqu'il intervient 40 ans après celui reçu par son père, Sune Bergström, récompensé du Nobel de médecine en 1982.
La recherche pour les maladies neurodégénératives avance. Un nouveau médicament est parvenu à ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer durant un essai clinique. Des résultats qui sont encourageants mais qui font débat. Le lecanemab, c'est le nom de ce nouveau médicament annoncé par le groupe pharmaceutique japonais Eisai et l'américain Biogen qui permettrait de réduire le déclin cognitif de patients au premier stade de la maladie. Des essais cliniques ont été menés et les résultats préliminaires sont prometteurs. 1800 personnes ont participé à ces essais, la moitié ont reçu le traitement et l'autre moitié un placebo. Le médicament aurait permis une réduction de 27% du déclin cognitif des patients sur une période de 18 mois. Pour rappel, les causes de la maladie d'Alzheimer ne sont pas encore parfaitement connues. La théorie actuelle serait la présence d'amyloïdes dans le cerveau. Ce sont des plaques de protéines qui se collent aux neurones et qui les détruisent. Le rôle de ces plaques est vivement débattu dans la communauté scientifique. En tout cas, le but de ce nouveau médicament, le lecanemab, serait de s'attaquer à ces plaques de protéines et de retarder la destruction des neurones. Ce médicament ne soignerait pas la maladie d'Alzheimer, mais il freinerait le déclin cognitif et pourrait permettre à des gens atteints de la maladie de continuer de faire des tâches du quotidien, ce qui est déjà une victoire. À voir cependant les possibles effets secondaires du traitement qui pourraient entraîner des inflammations et des saignements dans le cerveau. Les deux laboratoires, Eisai et Biogen, prévoient de publier l'ensemble de leurs résultats prochainement et souhaiteraient commercialiser le médicament vers fin mars 2023.
On continue avec un chiffre plus qu'inquiétant, ces 10 dernières années, 1733 défenseurs de l'environnement ont été tués. Ça ne fait pas moins d'une personne tous les deux jours, un constat terrible dressé par un rapport de l'ONG Global Witness publié le 29 septembre dernier. Cette dernière avait collecté depuis 2012 des données sur les meurtres de défenseurs de l'environnement. Parmi les principales cibles de ces crimes, on compte un bon nombre de personnes d'origine indigène. Ces derniers représentent 40% des victimes, alors qu'elles ne pèsent que 5% de la population mondiale. Autre constat alarmant, l'ONG met en avant le fait que ces crimes restent bien souvent impunis. Parmi les principales causes de cette impunité, on trouve la corruption ou encore l'inefficacité des autorités et l'incapacité totale d'agir face à ce genre de fléau. Ces meurtres sont souvent la résultante d'intérêts financiers et sont parfois protégés par des États et des entreprises complices. L'ONG souligne qu'une grande partie de l'augmentation des tueries, de la violence et de la répression est liée aux conflits territoriaux et à la poursuite de la croissance économique basée sur l'extraction des ressources naturelles de la Terre. Les principales zones touchées par ces meurtres sont l'Amérique latine et l'Asie de l'Est. La moitié de ces attaques ont lieu en Colombie, au Brésil et aux Philippines.
La Chine a franchi un nouveau cap en termes de robotique. Le pays investit massivement dans les robots et dans l'intelligence artificielle et une entreprise a donc décidé de passer à l'étape supérieure en donnant à un robot un poste, celui de PDG. Une femme robot pilotée par une IA devient PDG de l'entreprise NetDragon Websoft, l'un des leaders chinois du jeu vidéo. Tangyu, c'est le nom de ce robot qui a d'abord occupé la place numéro 2 de l'entreprise avant d'être nommé directeur principal. On peut donc voir cette chef d'entreprise partout sur les écrans des bureaux des employés avec un costume et une coupe au carré. Ce sont évidemment des humains qui programment le robot, mais elle peut approuver, signer des documents, lancer des projets, évaluer le personnel. Le but est avant tout de fluidifier l'administration et d'améliorer la qualité des tâches de travail. Évidemment, pas de congé, ni de repos pour un robot, la PDG va devoir travailler 24 heures sur 24, sans même être payée.
Vous écoutez C'est pas faux, sur Radio Phoenix.
À l'image de nombreuses espèces terrestres, les insectes pollinisateurs voient malheureusement leur nombre chuter à grande vitesse. À titre d'exemple, l'abeille a un taux d'extinction 100 à 1000 fois supérieur à la moyenne.
Les abeilles étaient justement au cœur d'une conférence à l'occasion de la Semaine européenne du développement durable qui a eu lieu lundi dernier. Cette dernière, intitulée « Tout un monde d'abeilles au beau milieu des hommes », était présentée par Jean-François Audoux, qui est avec nous en direct sur Radio Phoenix. Bonjour Jean-François Audoux.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur, expérimentateur abeilles et environnement, agricole, chercheur au laboratoire EVA. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de pollinisation et de pollinisateurs, faisons un petit point vocabulaire. On entend souvent parler de pistils, d'étamines, de pollen, de corolles, mais finalement, quelle différence entre tout ça ?
En fait, c'est des choses qu'on a appris quand on était tout petit pour la majorité d'entre nous. Ce qui est à retenir, c'est que la fleur, c'est l'organe sexuel de la plante. Et puis, qui contient, comme les organes sexuels, une partie mâle et une partie femelle. Donc, il y a les étamines qui sont la partie mâle, là où il y a de la poudre qu'on appelle le pollen. Et puis, il y a la partie femelle qui est le pistil, surmonté du petit stigmate qui est une partie collante qui va attirer le pollen. Et puis, en bas du pistil, il y a l'ovaire qui contient les ovules.
Et concrètement, la pollinisation, ça sert à quoi en fait ?
Alors la pollinisation, c'est le transport du pollen de la partie mâle vers la partie femelle. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir déjà une idée précise de où sont les mâles, où sont les femelles. Et le pollen va devoir aller de l'un vers l'autre. Et donc la pollinisation, c'est ce transport qui va de l'un vers l'autre.
Et clairement, quel est le procédé ? Donc une abeille, un insecte, un pollinisateur va sur la fleur et qu'est-ce qui se passe ?
Alors en fait, il y a des plantes qui se débrouillent toutes seules, qui ont besoin de personne pour faire transiter leur pollen de la partie mâle vers la partie femelle. Ou bien ils tombent directement sur le stigmate. Mais il y a une grosse majorité des espèces végétales qui a besoin d'un vecteur pour transporter ce pollen. Alors, ça peut être parce que la fleur mâle et la fleur femelle sont pas sur la même... Enfin, la partie mâle et la partie femelle de la fleur sont pas sur la même fleur, voire ne sont pas sur la même plante. Ça peut être aussi parce qu'il y a des systèmes d'incompatibilité. Donc, alors, ça peut être le vent qui fait le transport, ça peut être l'eau, ça peut être des animaux. Et ça peut être des insectes qui font le transport.
Parmi ces insectes, en l'occurrence, on compte évidemment l'abeille. Il existe plusieurs types d'abeilles. Il y en a qui sont dites mellifères et d'autres qui sont dites sauvages. Qu'est-ce qui les différencie et est-ce qu'elles ont la même façon de polliniser ?
En fait, les abeilles sont juste une partie des pollinisateurs, puisqu'il y a aussi des mouches, des coléoptères, plein d'autres, et des papillons, bien sûr. Mais la particularité des abeilles, c'est qu'elles sont mangeuses de nectar et de pollen. Donc, c'est ça qui va les attirer vers la plante. Il y a près de 1000 espèces d'abeilles en France. 970 ou quelque chose comme ça, ça dépend. Mais c'est pour dire que l'abeille mellifère, c'est une parmi toute cette myriade d'espèces, et c'est une des seules qui vivent en société toute l'année, en colonie. Voilà, c'est pour ça qu'elle a besoin de récolter du miel, elle fait des réserves pour passer l'hiver. alors que la majorité des autres espèces sont des espèces solitaires, qu'on appelle solitaires parce qu'elles travaillent pour leur propre compte, elles ne vivent pas en société, donc elles n'ont pas besoin de faire des réserves pour l'hiver et elles n'amassent pas de miel.
Quand on pense à abeilles, on pense aussi souvent à ruches. Vous avez parlé de milliers d'espèces d'abeilles. Est-ce qu'elles se constituent tous en ruches ou pas ?
Non. C'est justement, enfin, la ruche, c'est l'habitat seulement. Dans la ruche vit une colonie. Et en fait, très peu d'espèces vivent en colonie. Alors bon, on a l'abeille mellifère qui est la plus connue, on a les bourdons qui vivent en colonie, mais seulement une partie de l'année, puisqu'en hiver, il n'y a plus de colonie. Et puis, il y a d'autres espèces qui ont la faculté, de temps en temps, de fonder une colonie transitoire, ou plus ou moins stable, mais enfin, c'est moins généralisé. L'abeille mellifère est une exception.
D'ailleurs, en parlant de cette ruche, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans cette ruche ?
Alors bien sûr, tout le monde a entendu parler de la reine qui est la mère de tous les individus qu'il y a dans la ruche. Ce qui est intéressant, c'est que on a tous appris des généralités quand on était petit, et en fait, le monde des abeilles, c'est que des exceptions. Le monde des insectes, de toute façon, d'une façon générale. Alors, la reine est la mère de toutes les ouvrières qu'il y a dans la ruche. Mais bien sûr, il y a des ouvrières qui sont là, qui font partie de la famille, et qui ne sont pas des filles de la mère. Il y a des abeilles qui se trompent de ruche et puis qui élisent domicile dans une nouvelle ruche parce qu'elles sont arrivées avec le jabot plein de miel et donc elles sont acceptées. Les mâles, c'est la même chose. Les mâles sont sans domicile fixe. Ils naissent dans une ruche et ensuite, dès qu'ils sont capables d'aller un peu, de prendre une autonomie, ils changent de ruche très très régulièrement.
Et concrètement, c'est quoi son rôle en fait à la reine dans la ruche ?
La reine, alors on dit qu'elle pond, donc c'est elle qui assure la reproduction. C'est la seule ouvrière, c'est la seule femelle, pardon, féconde d'une colonie. Par contre, elle assure plein d'autres fonctions. En particulier, elle assure la cohésion. Vous savez, les insectes, ils communiquent beaucoup par phéromones. C'est des hormones volatiles qui sont destinées à induire un comportement particulier chez un autre individu de la même espèce. Et donc, c'est comme ça que communiquent finalement les abeilles entre elles à l'intérieur de la colonie. Et alors, la graine sécrète beaucoup de phéromones. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a qui sont très importantes, qui sont des sécrétions mandibulaires ou du bout des pattes, des tarses, ou même sur l'abdomen aussi, elle a des phéromones qui sont sécrétées et qui ou bien encouragent les abeilles à aller travailler, ou bien permettent de maintenir la cohésion, ou bien aussi inhibent totalement le développement des organes sexuels des ouvrières.
Pour revenir sur la reine, est-ce qu'il y a un système de vote ? Est-ce qu'on lui pose une couronne sur la tête ? Comment la reine est choisie ?
Ah non, on n'a pas la couronne sur la tête pour la reine. Elle fait partie de cette famille d'abeilles d'ailleurs. Nous on dit une colonie en français, il y a plein de pays qui disent une famille ou un peuple. Ça dépend des pays. Mais donc elle a la fonction de pondre et de maintenir la cohésion, mais les décisions sont prises en société par toute la communauté des abeilles qui compose cette famille, ce peuple, cette colonie. On peut dire que c'est une démocratie, un petit peu à l'image de ce qu'on pourrait imaginer chez nous, mais parce qu'on voit qu'il y a quand même des négociations, des efforts de conviction de la part de certaines pour emporter des décisions, ouais. La reine ne se fait que suivre le groupe.
Aujourd'hui, on a une grande partie des ruches qui sont du fait de l'activité humaine. Le nombre d'apiculteurs est de plus en plus croissant. Est-ce que finalement, c'est naturel chez l'abeille de se constituer en ruche ? Ou est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est pas plutôt l'homme qui encourage l'abeille à se constituer en ruche ?
Non, pas du tout. L'abeille mellifère, Apis mellifera, est organisée pour vivre en société, vous pouvez appeler ça une ruche, on peut appeler ça une cavité. Pour moi, la ruche, c'est la boîte. Hein. Donc, elles sont naturellement amenées à vivre en colonie comme ça, en société, et l'apiculteur ne fait que leur offrir une boîte pour qu'elles soient à l'abri et qu'on puisse aussi les visiter et récolter du miel, alors que dans un tronc d'arbre, c'est quand même pas pratique. Mais ça, c'est la fonction naturelle. En fait, on ne fait qu'imiter ce que les abeilles font dans la nature, dans une certaine mesure quand même, parce qu'on a quand même adapté à notre pratique.
Quand on pense abeilles aussi, on pense à miel, mais à quoi ça sert à la base ? Pourquoi les abeilles produisent du miel ?
Alors c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure, en fait, parce que les abeilles vivent en société toute l'année. Et ça, c'est une exception dans le monde vivant, hein, des individus comme ça qui vivent toute l'année ensemble. Il y a les fourmis, il y a certaines espèces d'abeilles sauvages comme certaines alictes quelquefois. Donc, à partir du moment où vous allez vivre en communauté, il va falloir se débrouiller pour trouver une façon de passer l'hiver dans une période où il n'y a plus de ressources florales. Donc, ou bien on se met en diapause, en hibernation, ce que font beaucoup d'autres insectes comme les guêpes, les frelons, les bourdons, ou bien on remplit le garde-manger pour pouvoir continuer à manger, vivre au ralenti, mais continuer à manger quand même. Donc en fait, tout vient de là. Et le fait que les abeilles vivent en société toute l'année les oblige à accumuler du miel, et puis comme beaucoup d'animaux, elle en récolte plus que nécessaire, elle fait des réserves en excédent. Et c'est ces réserves en excédent qui ont donné l'idée à l'homme de se servir pour récupérer ses excédents.
Oui, donc à la base, en fait, le miel est destiné aux abeilles elles-mêmes.
Bien sûr, c'est leur source d'énergie. Le miel, c'est du sucre en priorité, hein, c'est 80% de sucre. Et donc c'est leur source d'énergie qui va leur permettre de maintenir la température pendant l'hiver. Dans une colonie d'abeilles, pendant l'hiver, il y a une température qui est maintenue autour de la reine au-delà de 30 degrés. C'est énorme, même s'il fait moins 10 dehors.
Et justement, le fait de prélever ce miel, est-ce que ça a un impact sur les abeilles, sur les ruches ?
Alors ça, c'est une question de dose. Je vous ai dit tout à l'heure, les abeilles récoltent en excès. Alors évidemment, il faut ne prendre que l'excès et ne surtout pas toucher à ce que les abeilles auront besoin pendant l'hiver. Pour passer l'hiver, une colonie, elle a besoin d'une quinzaine de kilos de miel. Ça va dépendre des périodes, des régions. Bon, on laisse en général une vingtaine de kilos de miel dans le corps des ruches à cette saison-là. S'il n'y en a pas assez, on en remet même. Et en fait, les volumes des ruches sont calculés pour que quand on récolte la hausse, on a laissé dans le corps de la ruche la quantité nécessaire pour qu'elle puisse passer l'hiver. Mais j'ai connu, dans des temps un peu plus anciens, mais je crois que ça existe encore dans certaines régions, des gens qui vont prélever du miel dans le corps de ruche. Et là, par contre, ça, c'est mettre sa colonie en péril.
Et est-ce que le goût ou la qualité du miel peut changer en fonction de l'abeille qui le produit ?
Ah, alors ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Est-ce que d'une variété d'abeille à une autre, est-ce qu'on n'a pas le même miel ? Eh ben, ça va dépendre quand même de beaucoup de choses. Si elle a une langue assez longue pour aller butiner des fleurs qui ont une corolle profonde, elle va avoir un miel qui sera différent de la ruche voisine qui a une langue qui est plus courte, par exemple, qui va butiner sur d'autres sortes de fleurs. Après, il n'est pas meilleur ou moins bon, c'est que la variété des fleurs peut être différente, mais de toute façon, c'est souvent un assemblage.
Si on prélève tout le miel d'une ruche, quelles sont les conséquences ? Est-ce que les abeilles partent ? Est-ce qu'elles meurent peut-être ?
Non, elles ne partent pas parce qu'on a pris le miel, mais dedans il y a le couvain, il y a le nid. Et les abeilles n'abandonnent pas leur nid. Si on prenait trop de miel dans une ruche au moment de la récolte et qu'elles ne vont pas reconstituer leurs réserves avant l'hiver, le risque qu'on prend, c'est qu'elles n'ont pas assez de miel pour aller jusqu'au mois de février-mars prochain. Et c'est là que ça va se faire. Donc en fait, s'il n'y a pas assez de nourriture pour passer l'hiver jusqu'au bout, eh bien, on va avoir un abaissement de la température, des difficultés pour les abeilles pour remettre le nid en route au printemps prochain. Et puis, ou alors qu'elles n'auront pas eu assez à manger, et donc on aura une baisse de la population. Et ensuite, cette baisse de population va pas pouvoir permettre de cette population trop faible va pas pouvoir permettre de repartir au printemps. En fait, à cette saison-là, on est aujourd'hui en mois d'octobre. Nous, apiculteurs, on prépare déjà le printemps prochain. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la colonie qui va permettre de redémarrer au printemps.
On pense toujours aux abeilles au premier abord quand on pense pollinisateurs, mais il en existe plein d'autres en fait. Lesquels ?
Alors déjà, parmi les pollinisateurs, il y a toutes les sortes d'abeilles dont on a parlé tout à l'heure, les 970 espèces. Et puis, il y a aussi d'autres insectes qui sont pas toujours notés dans les pollinisateurs, tels que les mouches, par exemple. Alors, on connaît les cirfes, souvent, qui sont des mouches qui ressemblent un petit peu aux abeilles. Mais la mouche domestique, la mouche qu'on a sur les carreaux de nos fenêtres, est aussi un grand pollinisateur des prairies en particulier, des prairies humides, comme on a dans le département. Et puis, il y a bien sûr tout ce qu'on sait déjà, les papillons. Pas forcément les beaux papillons, il y a aussi les papillons de nuit, ceux qu'on ne voit pas. Et puis, des coléoptères qui mangent du pollen et qui se promènent de fleur en fleur et qui transportent du pollen.
Et est-ce que parmi tous ceux que vous avez cités, il y en a qui ont plus d'impact sur la pollinisation pardon, que les autres, ou est-ce qu'ils ont tous ils fournissent tous un travail assez égal ?
Eh bien, ça dépend. Ça dépend de là où on se trouve, à quelle période de l'année. En période de printemps très précoce, où il y a beaucoup de périodes froides, les mouches vont être beaucoup plus actives que les abeilles. Après, un peu plus tard dans la saison, au mois de mai-juin, on va avoir plus d'abeilles. Et puis, à l'intérieur des abeilles, eh bien, on a celles qui sont précoces, comme les osmies, par exemple, qui vont arriver en début d'année. Et puis, il y a celles qui n'arrivent que ensuite, quand il commence à faire vraiment bon. Par exemple, des méga-chilles n'arrivent qu'au mois de juillet, certaines d'entre elles. Et puis, suivant le lieu où on est, par exemple, si on est dans un champ de colza, il va y avoir beaucoup d'apiformes, d'abeilles qui vont être présentes. Mais si on est dans une prairie avec des fleurs qui ne sont pas toujours très accueillantes pour les abeilles, qui ont une grande langue, eh bien, c'est les mouches qui prédominent. Et donc, suivant la configuration, eh bien, on n'a pas les mêmes insectes. Dans les montagnes, en altitude, on a aussi plus de mouches et moins d'abeilles.
Il y a différents pollinisateurs, mais il y a aussi différentes fleurs. Est-ce que toutes les fleurs sont butinables ?
Ben déjà, il faut qu'il y ait du nectar ou du pollen. Et il y a des fleurs qui n'en sécrètent quasiment pas. Alors si elles n'en sécrètent pas, elles sont organisées autrement. Elles n'attendent pas après le butineur. Par exemple, une fleur de blé va se polliniser toute seule. Avant même d'ouvrir ses glumes, ce n'est pas des pétales, c'est des glumes, la pollinisation est déjà assurée en milieu fermé. Alors, ces plantes-là ne sont pas butinables. Il y a aussi, pour l'anecdote, des plantes qui sont butinables dans certains pays, puis pas dans d'autres. Par exemple, le soja, en Amérique latine, est une plante butinée par les abeilles, alors qu'elle ne l'est pas en France. C'est simplement que la morphologie de la fleur n'est pas la même. Et puis, il y a des plantes qui vont être butinables à certains horaires, le matin ou l'après-midi, et à une heure où certains insectes seulement sont prêts. Et d'autres ne sont pas prêts.
Tout à l'heure, vous expliquiez la formation du miel par le fait que les abeilles vivent en colonie. Les autres pollinisateurs ne produisent pas de miel. Pardon. Est-ce que c'est justement lié au fait que ce sont des pollinisateurs qui ne vivent pas en colonie, ou est-ce que c'est juste une autre explication ?
Attention, d'autres pollinisateurs ne produisent pas de miel disponible pour l'homme. Mais par exemple, une andrène qui ne produit pas de miel disponible pour l'homme, fait quand même son miel pour nourrir sa propre progéniture. Elle récolte du pollen et du nectar, elle va l'amalgamer, on va appeler ça du miel si on veut, mais c'est pas exactement la même chose que le miel que nous on récolte, mais c'est quand même, elle récolte du pollen et du nectar pour sa progéniture. Donc il n'est pas disponible pour nous, mais il est disponible pour les jeunes des autres espèces. Par contre, j'ai pas répondu à la question.
Est-ce que tous les pollinisateurs du coup vivent en colonie
Voilà, c'est ça. Donc en fait, les miels qui sont disponibles pour l'homme, c'est les miels des insectes qui vivent en colonie et qui ont une mauvaise saison à passer. Alors nous, on est ici en France, on a une vision qui est quand même un petit peu restreinte sur l'abeille mellifère, Apis mellifera, qu'on appelle l'abeille domestique aussi. Dans d'autres pays, il y a les trigones, les mélipones, dans les pays tropicaux, qui sont aussi des insectes qui produisent du miel qui est récoltable par l'homme. Et puis, il y a aussi des insectes comme le bourdon, par exemple, qui accumulent du miel. Mais si on pillait un nid de bourdon à la fin de l'été, ou même au milieu de l'été, on trouverait du miel. Mais on ne le fait pas, et tant mieux. Mais ce miel est destiné à nourrir les jeunes qui vont tout bouffer, et les fondatrices en particulier, qui vont vider les réserves avant de partir dans la nature pour passer l'hivernage.
On reparle pollinisateurs et pollinisation dans C'est pas faux, l'occasion de faire une petite pause musicale justement avec l'homme pâle et son titre Le miel et le vinaigre. On reste dans le thème. A tout de suite sur Radio Phoenix.
Je force sur mon corps et je dis. Je force sur ma clope, même mes cœurs et je tire. Trop de questions, je m'auto-interview, peu de réponses. On s'en reparle au prochain rendez-vous. Attends un peu avant de rentrer les chaises. Je voudrais un verre, pas un nouvel échec. Allez tranquille, 15 minutes, ta bouteille et moi. On va se sentir plus léger. Ah ouais. Ah ouais. Je connais la route, je l'ai déjà faite. Et souvent c'est parce que je me fais virer de la fête. C'est pas de ma faute, j'ai les filtres en panne. De toute façon, j'aime pas les bouffons et j'aime pas le champagne. Envie d'un choc, merde, je suis obsédé. Si je pouvais, je ferais en sorte que toute la ville s'éteigne. Dans le noir, ils pourront pas se voir. Et pour moi, ça changera rien vu que je suis invisible. Ah ouais. Ah ouais. Seul éclairé par le ciel. Encore une fin de film facile à deviner. Mais je plains ceux qui ne connaissent que le miel. Le miel, ça n'est pas vraiment le miel sans le vinaigre. Minuit, je rentre seul éclairé par le ciel. Encore une fin de film facile à deviner. Mais je plains ceux qui ne connaissent que le miel. Le miel, ça n'est pas vraiment le miel sans le vinaigre.
On vient d'écouter L'Homme Pâle, Le Miel et le Vinaigre sur Radio Phoenix. Vous écoutez toujours C'est pas faux. Nous sommes avec Jean-François Audoux, ingénieur, expérimentateur abeilles et environnement agricole, chercheur au laboratoire EVA.
Pour reprendre cette interview, je me posais une question. Qu'est-ce qui se passerait concrètement demain si toutes les abeilles disparaissaient? Est-ce que le reste des pollinisateurs suffirait à permettre une reproduction florale?
Ah, très certainement, la nature a toujours des routes de secours, la nature est toujours organisée pour arriver à parer à un maillon faible. Par exemple, il y a des fleurs qui, a priori, dépendent uniquement des pollinisateurs. Si on leur interdit complètement l'accès, ces fleurs vont continuer à faire quelques graines, pas beaucoup, mais quelques graines quand même. Alors, qu'est-ce qui se passerait si les abeilles disparaîtraient? La nature enverrait d'autres pollinisateurs, mais le problème est que, en fait, si les abeilles disparaissaient, les autres disparaîtraient aussi. Donc, en fait, l'abeille est un indicateur, est un modèle, est une espèce emblématique du monde des pollinisateurs. Mais si elle s'écroulait, les autres s'écrouleraient aussi. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas se passer des pollinisateurs.
Parce que quand on parle, en général, on met souvent beaucoup en avant le fait que la disparition de l'abeille serait la pire disparition d'espèces. En fait, on parle des pollinisateurs au sens large.
Oui, oui, puis avec une phrase qu'on a attribuée à Einstein de façon fausse, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que les gens ont quand même compris que les abeilles étaient importantes pour la survie du vivant, pas simplement de l'humanité. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est ces deux choses. Voilà, c'est que de toute façon, l'abeille elle-même, elle est essentielle. Mais si elle n'était pas là, il y a plein d'autres pollinisateurs qui sont capables de faire le boulot. En revanche, si l'abeille s'écroule, il y a très forte probabilité pour que la majorité de ces autres insectes route secours s'écroulent avec.
On le sait, la pollution a un grand impact sur la biodiversité. C'est quoi l'impact de la pollution sur les fleurs? À quel point ça nuit à la pollinisation?
Ah bah alors la première pollution à laquelle je pense, c'est celle des produits agricoles, des produits des pesticides agricoles. Et la réponse, elle est très facile, c'est-à-dire que à partir du moment où les pollinisateurs vont être affectés dans leur comportement par ces pesticides, ils vont être moins performants ensuite pour polliniser. Alors, on a cru pendant très longtemps qu'il suffisait de mesurer si les abeilles mouraient directement de contact avec les pesticides ou non. C'est comme ça qu'est partie toutes les polémiques, que sont parties toutes les polémiques qu'on entend encore à l'heure actuelle. Mais en fait, il suffit que simplement son comportement soit affecté. L'abeille n'arrive plus bien à reprendre ses idées pour retrouver les fleurs ou pour retrouver la ruche pour rentrer à la maison. Eh bien, ça va faire que la ruche va s'affaiblir et que petit à petit, il y aura de moins en moins de réserves dans la ruche, elle ne pourra pas passer l'hiver. Donc, c'est évident que la pollution des pesticides a un impact très très grave sur les abeilles. Après, il y a d'autres pollutions, hein. Il y a des pollutions industrielles, il y a des pollutions de toutes sortes, mais celles à laquelle elles sont le plus gravement exposées, ce sont les pesticides.
Oui, justement, vous évoquiez les pesticides, pollution industrielle. Est-ce qu'il y en a encore d'autres qui vous viennent en tête ?
Non. Là, vous me prenez de court, j'ai pas... Non.
On a compris que globalement, c'est quand même la pollution liée à l'agriculture, en tout cas c'est l'agriculture conventionnelle qui cause cette pollution de fleurs.
Oui, c'est le risque le plus grave. Mais il faut bien aussi réaliser que les nuages transportent énormément de choses, même dans les montagnes, même hors des zones cultivées de façon... Enfin, hors des zones agricoles. Les nuages transportent aussi des pesticides et des polluants industriels. Donc en fait, c'est pas parce qu'on est au ras d'une culture qu'on est toujours beaucoup plus exposé que si on était beaucoup plus loin.
Donc l'agriculture a un gros impact sur la biodiversité. Est-ce qu'il faut pas repenser le modèle agricole pour protéger cette biodiversité ?
Alors ça, c'est évident. C'est évident, il faut arriver à faire en sorte que nos insectes puissent vivre toute l'année en trouvant de quoi manger et en toute sécurité. Donc c'est évident que nos insectes ont besoin d'une diversité de nourriture à chaque moment et tout au long de l'année. Et c'est un petit peu ça que remet en cause le système agricole productiviste d'aujourd'hui, que du fait qu'on a de moins en moins de diversité de cultures dans les champs, et puis les fleurs arrivent énormément tout en même temps, et ensuite on n'en a plus du tout. Donc c'est ça qui met des espèces en péril, parce qu'on a parlé de l'abeille mellifère qui butine toute l'année, mais il y a des espèces, je vous ai dit tout à l'heure, qui sortent au fur et à mesure de la saison et qui ne vont butiner que pendant 2 ou 3 semaines. Si à ce moment-là il n'y a plus du tout de fleurs, eh bien, ces espèces ne pourront pas se reproduire.
Et justement, dans votre laboratoire, vous faites partie d'une équipe de recherche qui s'appelle ECOPEPS, qui est une cellule principalement tournée vers l'agroécologie. Dans vos travaux de recherche, justement, vous cherchez à repenser un modèle agricole qui serait plus viable pour les pollinisateurs ?
Dans cette équipe, on s'attarde en particulier sur la question des services écosystémiques. Donc il y a différents services écosystémiques qui sont apportés par la nature au service du vivant. Et alors il y a par exemple le stockage du carbone, il y a par exemple la qualité de l'eau, mais il y a aussi la production fourragère et la qualité fourragère. Et puis parmi ces différents services écosystémiques, il y en a un qui s'appelle la pollinisation. Et en fait, ce service de pollinisation, il est absolument stratégique par rapport au fonctionnement du vivant. Donc moi, ma part, c'est plus ça, c'est d'étudier les interactions plantes-insectes-pollinisateurs et dans les prairies, puisque c'est là que se trouvent les sujets de nos études. Et donc, les interactions plantes-pollinisateurs sont pas toujours bien connues encore à l'heure actuelle. Et la preuve, je vous disais tout à l'heure qu'on pense pollinisateur-abeille et on a pu montrer que dans certains milieux, ce sont essentiellement d'autres insectes que les abeilles.
On parle souvent d'éco-gestes. Nous, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir protéger les abeilles et les pollinisateurs ?
Alors ça, c'est une très bonne question et je vous remercie parce que les gens font souvent un raccourci qui est de très bonne volonté, mais qui finalement n'est pas tellement utile, qui est de mettre des abeilles dans leur jardin. Oui, c'est intéressant déjà pour apprendre la vie de l'abeille, mais ça ne résout pas absolument pas la question de leur survie. En fait, il faut des fleurs. Tout le temps, partout, et des fleurs qui soient accessibles aux abeilles, et pas seulement aux abeilles, à toutes sortes de pollinisateurs. Il faut des fleurs qui soient profondes, des fleurs qui soient moins profondes, qui soient plus faciles d'accès. Il faut des fleurs qui soient protégées des vents forts. Il faut des fleurs qui soient disponibles un petit peu tout le temps. Et des fleurs saines qui ne soient pas traitées, des fleurs qui apportent de la bonne nourriture avec des protéines, des lipides, du sucre, voilà.
Comment est-ce que le changement climatique impacte et impactera les pollinisateurs et la pollinisation au sens large ?
Alors, il a commencé le changement climatique déjà à décaler le cycle de certaines abeilles des espèces sauvages qui ne butinent pas toute l'année, par exemple, où il va faire démarrer le cycle des abeilles un petit peu plus tôt que normal, enfin que ce qu'on avait l'habitude du moins. Et alors, la difficulté, c'est qu'ensuite, est-ce que ce cycle de développement de l'insecte va être synchronisé avec les fleurs, les ressources florales auxquelles elle avait l'habitude avant ? Et c'est là que ça peut poser problème, parce qu'il y a des espèces qui ne supportent pas l'élévation de température, donc qui tendent à disparaître, et il y a donc des espèces d'abeilles qui se trouvent désynchronisées par rapport à ce qu'elles connaissaient avant.
Et est-ce que la Normandie, c'est une terre favorable aux pollinisateurs ?
Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de terres qui sont vraiment défavorables aux pollinisateurs, on arrive à en trouver absolument partout. La Normandie, bien sûr, est très favorable aux pollinisateurs. Il y a des apiculteurs en Normandie, mais il y a aussi énormément d'espèces de pollinisateurs sauvages. J'ai oublié le nombre d'espèces qui ont été dénombrées, en particulier dans la Manche, où il y a des inventaires très précis régulièrement. Mais oui, c'est énorme. C'est des centaines et des centaines d'espèces. Déjà, rien qu'en diptère, en mouche, en cirfe, tout ça, on a des centaines d'espèces de plusieurs centaines d'espèces de pollinisateurs. Dans les abeilles, on en a aussi, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est dans les 250, pas loin de 300. Donc c'est vraiment beaucoup.
Vous avez étudié les interactions fonctionnelles plantes-pollinisateurs dans des prairies contrastées de quatre régions françaises, des prairies de marais, de montagnes, mésophiles et des pelouses calcaires. Lequel de ces quatre est plus favorable à la pollinisation ?
C'est une excellente question, parce que à l'avenir, il va falloir raisonner un petit peu comme ça. Est-ce que j'ai un environnement qui est favorable aux pollinisateurs ? Dans le cadre de notre étude, on a trouvé beaucoup plus de pollinisateurs que dans d'autres études. Est-ce qu'il est plus favorable aux pollinisateurs ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une diversité d'espèces qui était bien plus forte. Par exemple, sur des coteaux calcaires, comme là, dans le cadre de l'étude, ça se passait dans la Somme, dans la vallée de la Somme. Dans les coteaux calcaires, il y a traditionnellement beaucoup d'espèces de pollinisateurs. Dans les prairies de montagne, on a énormément d'espèces aussi de pollinisateurs. Et dans des prairies inondées une partie de l'année, comme c'est le cas dans les marais du Cotentin et du Bessin, eh bien là, par contre, on a une diversité spécifique, un nombre d'espèces beaucoup plus faible.
On a parlé aussi.
C'est pas pour ça qu'ils sont moins efficaces.
On a parlé aussi de solutions pour protéger les pollinisateurs. On entend parler de fécondation artificielle. Comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est ?
Fécondation artificielle des abeilles ou des plantes ?
Des plantes.
Quand il n'y a plus de pollinisateurs, il y a des gens qui se sont dit, mais on pourrait polliniser les fleurs nous-mêmes sans attendre après les abeilles. En fait, c'est pas nouveau comme question. On fait ça chez les Égyptiens depuis très 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 longtemps, polliniser des palmiers. Mais plus tard, quand s'est développée la culture de la vanille à travers le monde, on ne savait pas comment ça marchait, et en fait on s'est rendu compte qu'il valait mieux les polliniser soi-même. Et après on a compris qu'il y avait une espèce d'abeille très particulière qu'on n'avait pas importée en même temps que la culture de la vanille. Et puis plus récemment, on parle beaucoup des cultures de fruitiers, pommiers, poiriers en Chine et au Bhoutan, où on a, c'est surtout en Chine, mais il y avait un problème d'abeilles mortes partout, quoi. Et puis les Chinois se sont mis à polliniser eux-mêmes avec des plumes pour polliniser les fleurs. Et en fait, ça permet aussi d'avoir des très beaux fruits. Ceci dit, cette pollinisation, dans le cas des Chinois, elle n'est pas obligatoire, et elle a été déclenchée aussi par le fait que c'était complètement pollué de pesticides.
Qu'est-ce que ça change, cette pollinisation artificielle, dans la qualité, justement, de la pollinisation en elle-même ?
Ben c'est pour ça que je disais qu'en fait, il y a quand même des différents reportages qui expliquent ce phénomène-là. Mais qu'est-ce que ça change ? C'est que ça peut permettre de polliniser avec une certaine variété plutôt qu'une autre. Et ça peut donner la garantie que la pollinisation a été bien assurée si c'est fait correctement. Et c'est ce qui fait qu'au Japon, ils ont l'habitude de faire ce genre de choses et d'obtenir des très beaux fruits.
Il faut que ça soit fait correctement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont habilités à le faire, justement ?
Oui, il faut être capable de grimper dans les fleurs des arbres fruitiers. Et ou bien c'est fait par des gens très, très bien formés, très avertis, ou bien c'est fait n'importe comment, de façon semi-industrielle, comme en Chine, par des gamins qui montent dans les arbres et qui se cassent la figure régulièrement, il y a des accidents. Donc en fait, il y a tous les cas de figure là aussi. Faut retenir que une des raisons principales, c'est les pesticides, mais on peut pas, le problème est bien plus complexe que ça, quoi.
Est-ce que c'est vraiment viable de pratiquer de la sorte à long terme ?
Bien sûr que non. Bien sûr que non, on ne peut pas faire le travail des abeilles. C'est pour ça que, je vous ai dit, ça pouvait permettre de donner des beaux fruits. Donc là, tout de suite, on va ouvrir sur un marché qui va nous permettre de vendre, de commercialiser à très très haut prix, avec un prix très élevé. Mais il est hors de question d'imaginer que tous les fruits qu'on va consommer seront pollinisés par autre chose que des insectes naturellement. Sinon, ce ne sera jamais rentable.
Question un peu plus personnelle, vous êtes également apiculteur. Est-ce que vos sujets de recherche, est-ce que c'est vos sujets de recherche qui vous ont amené à faire de l'apiculture, ou est-ce que c'est l'inverse ?
Ah, je crois qu'au départ, j'étais dans les abeilles. Ça rend curieux d'avoir des abeilles. Hein. Quand on a envie de regarder dans la ruche et on a envie de comprendre comment ça marche. Et puis c'est du tout petit. Dès qu'on met les mains dedans, c'est tout de suite quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de minutie. Et quand j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le monde de la recherche, pour moi, c'était une opportunité formidable pour arriver à comprendre ce qui se passe dans cette société des abeilles où on ne peut pas tout comprendre en regardant, ou alors c'est tellement long. L'apiculture rend curieux, je crois. Voilà.
Juste pour terminer, on a parlé des fleurs pour protéger les abeilles. Est-ce que, ou les pollinisateurs, est-ce que vous avez un petit bouquet à nous faire ? Qu'est-ce qu'il faut acheter comme fleurs pour protéger ces abeilles, pour les personnes qui nous écoutent ?
Alors, il y a des fleurs sur lesquelles on a régulièrement des insectes toute l'année. Ces derniers jours-là, il y a la pulicaire qui est en fleurs, qui attire des insectes. Et il y a le lierre aussi qui attire beaucoup d'insectes ces jours-ci, là, et qu'il ne faut pas détruire n'importe comment. Bien sûr, on ne peut pas avoir du lierre partout, mais sachez qu'il accueille énormément les insectes. Et puis dans les jardins, ce qui est bien, c'est de mettre des plantes de la famille des lamiacées, quoi, la famille du thym, la famille de la sarriette, la famille des épières, la famille des orties blanches, du lamier blanc. Ça, c'est un bouquet qui marche quand même très bien. Des astères, ça attire aussi. Donc les astéracées, les lamiacées, et puis les fabacées. Oui, si vous avez dans votre jardin du sainfoin, de la luzerne, vous êtes sûr, du trèfle, vous êtes sûr d'avoir des insectes.
Merci beaucoup Jean-François Audoux d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes ingénieur, expérimentateur abeilles et environnement agricole, chercheur au laboratoire EVA. Bonne journée à vous.
Merci à vous aussi. Bonne journée.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Avant de se quitter, c'est l'agenda de la semaine. Faisons un petit tour de l'agenda scientifique de la semaine. C'est le début de la fête de la science ce vendredi 7 octobre, et qui dit fête de la science dit plein d'événements au Dôme de Caen. Dès vendredi, à Bernières-sur-Mer, vous pourrez interroger des spécialistes sur la montée des eaux et son impact sur le littoral normand. Une rencontre organisée par le Dôme dans le cadre des rencontres Le Vrai, Le Faux, Le Flou, qui sont un cycle de conférences-débats. Découvrez comment la montée des eaux a eu un impact sur le paysage et notre mode de vie. Le lendemain, le samedi 8 octobre, directement au Dôme cette fois-ci, se tiendra le village des transitions, l'occasion de rencontrer les acteurs locaux du développement durable et de la protection de l'environnement. Si vous avez le temps l'après-midi, vous pourrez participer au programme PICCAN, organisé par le groupe mammologique normand, au Dôme toujours. L'objectif, fabriquer un portique pour nos amis les hérissons, qui sont une espèce protégée. N'hésitez pas à vous inscrire aux différentes conférences ou ateliers sur le site du Dôme de Caen, toute la programmation y est également présentée.
Si vous êtes féru de littérature et de science-fiction, ne ratez pas le dernier documentaire d'Arte.tv intitulé Isaac Asimov, l'étrange testament du père des robots. Mis en ligne le 2 octobre dernier, réalisé par Mathias Terry, ce documentaire de 54 minutes dresse le portrait du célèbre écrivain soviétique connu pour ses nombreux ouvrages consacrés aux robots. Il était d'ailleurs avec John W. Campbell, le rédacteur des célèbres 3 lois de la robotique. Ce doc donc qui prend une forme assez originale puisqu'imagine une cassette VHS retrouvée qui contiendrait un message de l'écrivain à destination des humains du XXe siècle. Pour cela, le réalisateur a recréé grâce à une intelligence artificielle un avatar de l'écrivain basé sur des propos qu'il a pu tenir en public. Une bonne occasion pour le documentaire de revenir sur le rôle social de la science. Isaac Asimov, l'étrange testament du père des robots, un documentaire à découvrir gratuitement donc sur la plateforme Arte.tv ou directement sur la chaîne YouTube d'Arte. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Victor et Emmanuel qui réalisaient cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, vous retrouvez Chloé pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.